Genève. Côté. Nature.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission hebdomadaire qui traite de l'environnement, Genève côté nature. Nous sommes sur Radio Cité, comme tous les lundis à 18h, et nous vous présentons l'émission de l'association Nariès, qui a pour but de vous parler justement un peu d'environnement, d'astuces pour mieux se comporter envers la nature, et pour vous transmettre notre passion de la flore et de la faune. Je suis Émilie, et je vous présente toujours cette émission avec ma sœur Virginia, qui est à mes côtés.
Bonsoir. Alors aujourd'hui, c'est un côté vadrouille que nous vous proposons, et cette vadrouille fait écho à la première émission vadrouille que nous vous avons présentée le 14 septembre. Elle se déroule donc au bord de la SEMA à Schenbourg. Vous pouvez sans autre retrouver les podcasts de cette émission sur notre site internet www.naries.ch dans la rubrique « Médias réguliers ». La vadrouille du 14 septembre commençait au Vieux-Bourg et finissait à la Schenbougerie. Et aujourd'hui, c'est toujours le long de la SEMA que nous allons nous promener. Mais cette fois-ci, nous commençons à côté de l'école de Haller, sur l'avenue de Bel Air, lorsqu'elle fait une boucle au nord de l'école, à peu près au niveau du numéro 39.
Donc, pour rejoindre le point de départ, vous descendez sur le chemin qui longe l'école et on se rejoint à la petite barrière, la chicane, qui nous permettrait aussi d'aller à droite en direction de Meynier. Et juste à cet endroit-là, à l'angle, on peut voir un grand arbre qui est juste derrière la barrière. Cet arbre, on le reconnaît bien à certaines saisons parce qu'il y a des fleurs en ce qu'on appelle une ombelle, donc une petite panicule de fleurs blanches. Cet arbre, c'est le sureau.
Le sureau a un symbole ambigu au niveau du folklore lié à cet arbre parce qu'il a des tendances porte-bonheur, vu qu'il dispense de la nourriture à la bonne saison. Mais on dit qu'il traîne un cortège de maléfices derrière lui à cause de son odeur peu appréciée. En Sicile, il protège des serpents, mais en Angleterre, à l'opposé, si on le brûle, il amène le diable dans la maison. Les magiciens l'utilisaient pour fabriquer des flûtes aux propriétés magiques, vu que les tiges sont creuses. Et les sorcières pouvaient aussi les utiliser en cachant leurs maléfices à l'intérieur des tiges creuses.
Alors le sureau est évidemment bien connu parce qu'on aime beaucoup le sirop qui est fait à partir de ses fleurs. Mais il y a aussi toute une série de vertus médicinales. Il est diurétique, il facilite donc la digestion. Il a aussi des propriétés anti-inflammatoires. Il peut aider à réduire la grippe si on le prend comme complément alimentaire. Et il adoucit la gorge en cas de toux.
Nous allons donc commencer cette balade en direction du Vieux-Bourg, en prenant la SEMA sur votre droite, et nous allons commencer à marcher sur le chemin.
Quand on arrive au bout de l'école, donc en dessous de l'école, on arrive à une autre, deuxième chicane que vous pouvez passer. Et là, sur votre droite et un peu au-dessus de vos têtes, vous avez tout un tas de noisetiers qui ont ces feuilles rondes, facilement reconnaissables avec cette petite pointe sur le bout et des feuilles très très douces. Mais vous avez aussi un arbre dont la feuille rappelle le drapeau du Canada. C'est l'érable. En l'occurrence, ici, nous avons des érables planes. Donc, c'est vraiment une feuille assez grande avec des pointes assez acérées sur les bords. Il faut savoir que l'érable est un arbre qui est très utilisé en ornement parce qu'il supporte très bien la pollution. Donc, on en plante pas mal le long des routes et pour agrémenter des parcs au milieu de la ville parce que, justement, voilà, il ne va pas souffrir comme d'autres essences, comme de l'orme, qui est une essence, par exemple, très, très sensible à la pollution. Donc, c'est vraiment une essence très utilisée en ville. À Genève, 8 essences d'érable différentes ont été recensées, certaines qui sont censées être ici, donc des indigènes, et certaines qui sont invasives ou qui ont été ramenées par les Genevois de tout temps depuis leur voyage. Donc l'érable à feuilles planes est censé être ici, tout comme l'érable champêtre qu'on peut remarquer juste un peu si vous reculez quelques pas avant la chicane. Il y a la barrière avec un poteau en bois et juste au niveau de cette barrière, on voit un érable qui a aussi un peu cette forme de drapeau du Canada, mais sans aucune pointe. Tous les contours sont un petit peu arrondis et les feuilles sont beaucoup plus petites. Ça, c'est l'érable champêtre. Les érables ont comme fruit les samars, ce sont les petits hélicoptères qu'on a tous regardés étant enfants, qui tournent au-dessus de notre tête quand ils quittent les feuilles. La samar peut être unique, mais elle peut être double, et selon l'angle entre les deux parties, ça détermine aussi l'espèce. Donc si vous avez pu repérer ces deux érables, on peut ensuite continuer notre chemin, nous avons toujours la SEMA à notre droite.
Le chemin va faire un virage sur la droite, au moment où une barrière en bois commence, Et de l'autre côté de la SEMA, au niveau de ce premier méandre, à droite d'un petit escalier qui mène à une propriété, vous pouvez voir une fougère typique avec des frondes très grandes. Les fougères représentent le plus grand embranchement après les angiospermes, c'est la division des ptéridophytes. Elle contient plus de 13 000 espèces. Il y a beaucoup de légendes liées au folklore de cette plante, notamment du côté de la mythologie slave et balte. On dit qu'il y a une fleur de fougère, ce qui est contradictoire parce qu'elle ne fait pas partie des angiospermes, donc des plantes à fleurs. Mais la légende dit qu'il y a une fleur de fougère qui fleurit une fois par an et qui conférerait des bienfaits magiques à qui la découvrirait. La découverte de cette fleur de fougère était extrêmement prisée. Les chercheurs de trésors avaient aussi un lien avec la fougère parce qu'il fallait impérativement qu'ils en portent sur eux lorsqu'ils partaient à l'aventure, sinon ils n'avaient absolument aucune chance de trouver un trésor. Nous allons maintenant continuer notre route le long de la SEMA, donc elle coule dans le même sens que nous marchons, parce qu'elle prend sa source du côté des marais de Rouelbeau, à Meignet, Choulet et dans ces coins-là, et elle coule jusqu'à se déverser dans l'Arve. Pendant que vous marchez, regardez bien autour de vous parce qu'on pense souvent à regarder les arbres, mais les plantes herbacées sont aussi très intéressantes. Et notamment en marchant, donc là nous sommes au mois de juin, si vous repérez des petites plantes qui ont des fruits en forme de petites boules avec les pointes rouges, si vous repérez encore quelques fleurs, elles sont jaunes avec quelques pétales. Les feuilles sont très reconnaissables parce qu'elles ont une grosse partie et deux plus petites sur les côtés, ainsi que deux parties de feuilles qui sont autour de la tige. Cette fleur très particulière, c'est la benoîte. Alors la benoîte, c'est une fleur qui est très utilisée parce qu'elle a un goût particulier dans ses racines, ou plutôt dans ses radicelles. Donc en fait, pour utiliser la benoîte, on doit déterrer un plant de manière précautionneuse parce qu'il faut conserver les racines et ensuite il faut prélever toutes les petites radicelles qui partent de la racine principale, les laver comme il faut. On peut les faire sécher ou les utiliser fraîches et vous verrez qu'elles ont un goût particulier entre le clou de girofle et la cannelle. On peut l'utiliser pour aromatiser les vins, les bières ou toute autre boisson. Et nous avons testé aussi d'aromatiser du lait pour faire une sorte de thé chai dont la saveur est vraiment assez incroyable une fois que les radicelles ont infusé. Quand la benoîte a perdu ses pétales, on peut voir qu'il ne reste qu'un fruit avec des filaments sur le côté. Et si vous passez suffisamment proche de ces fruits, vous verrez qu'ils collent à vos vêtements. Ce principe est utilisé par les plantes pour se disperser parce que contrairement aux animaux, elles ne peuvent pas marcher avec leurs petites pattes. Donc elles font appel à d'autres stratégies. Vous avez tous sans doute déjà vécu un moment où, en rentrant chez vous, vous vous apercevez que le bas de votre pantalon est couvert de petites boules nommées scratch, des petites boules vertes assez difficilement enlevables. C'est le même principe que la benoîte utilise, c'est-à-dire que ces fruits vont en fait s'attacher sur le pelage des animaux ou sur nos pantalons, hein, parce que c'est le pelage de nous autres animaux humains. Et en fait, elle va se disperser grâce à ça, parce qu'elle va tomber peu à peu le long du chemin. C'est ce qu'on appelle la zoochorie, de zoo animal et chorie transport. Et il y a plein d'autres chories différentes. On peut avoir l'anémochorie, qui est la dispersion par le vent, ce qui est le cas notamment du pissenlit. On a tous déjà soufflé sur un pissenlit en fleurs, on voit que ça vole très bien. On a aussi l'hydrochorie, qui est le transport par l'eau. Et dans les zoochories, dans les transports avec animaux, on a des transports assez particuliers qui sont des myrmécochories, qui sont des transports exclusifs par fourmis. Quand le chemin va tourner sur votre droite et va aller un peu en descendant, on a une souche d'arbres qui est au milieu du chemin qui peut vous faire un point de repère pour détecter une aubépine qui est sur le bord droit du chemin. Donc l'aubépine se repère parce que on dirait des feuilles comme un mini chêne, donc des feuilles très échancrées un peu partout sur la plante. Et si vous regardez les jeunes rameaux, vous voyez des épines. Alors l'aubépine a un nom latin qui se dit crataegus et ce mot vient du grec krataegos qui signifie force. Donc c'est un bois très dur qu'il est très difficile de casser. Il y a pas mal de légendes qui sont liées à l'aubépine. On dit par exemple que la foudre ne l'atteint jamais. Donc si on a une aubépine pas loin d'une maison, ça la protège.
Ce serait pas mal pour aujourd'hui vu le temps incertain qui est au-dessus de nos têtes.
Oui, c'est vrai que quand on est sorti pour enregistrer cette émission, on n'avait pas prévu de se faire mouiller, mais c'est peut-être
peut-être ce qui va arriver avant la fin de cet enregistrement. On verra bien. Donc, elle protège une maison de la foudre. Elle protège aussi contre les serpents qu'elle a apparemment la propriété d'éloigner. Donc, c'est pour ça qu'à l'époque, elle était plantée près des étables pour protéger les animaux des morsures de serpents, ce qui permettait aussi de conserver le lait. Et on mettait surtout beaucoup de soin à mettre des branches d'aubépine dans les étables, en particulier la nuit du 30 avril, pour empêcher les araignées ou les sorcières d'y rentrer. Lié à cette protection, il a été de tout temps dit que détruire une aubépine fait courir un grand péril. Donc faites attention si vous avez des aubépines dans votre jardin. Dernière petite information sur l'aubépine, elle a des utilisations particulières parce que les fleurs sont sédatives alors que les feuilles sont tonicardiaques. Donc il ne faut jamais mettre les deux composants dans une même préparation parce qu'autrement votre cœur ne saura pas vraiment comment il doit réagir et ça peut être dangereux.
Nous allons continuer maintenant cette promenade en suivant le chemin qui descend et on va se retrouver beaucoup plus près et surtout à niveau de la SEMA. En se rapprochant de la SEMA, on peut voir que l'eau aujourd'hui est très trouble. On voit qu'elle a charrié beaucoup de sédiments. C'est parce qu'il a beaucoup plu ces derniers temps. Mais s'il ne pleut pas pendant une certaine période, on voit que l'eau est claire, vraiment limpide. Là, le niveau n'est pas très profond et si vous êtes bien attentif, vous pouvez voir quelques petits poissons nager ici et là dans l'eau. Sachez que dans la SEMA, il y a en tout 18 espèces de poissons différentes, dont 5 exotiques, notamment le poisson-chat et le poisson rouge. Parce que beaucoup de personnes, effectivement, accueillent chez eux un poisson rouge dans un petit bocal. Au bout d'un moment, il se peut qu'ils en aient marre et au lieu de le ramener dans un centre animalier, ils le rejettent dans la nature. Et un poisson rouge dans un bocal est petit, mais dans un grand bocal comme peut l'être une rivière, il grandit et il devient extrêmement grand. Et en étant grand, il mange beaucoup plus de choses que dans un petit bocal. Il prend le pas en fait sur nos espèces dans leur environnement parce qu'il peut occuper la même niche écologique, donc le même milieu, et ça peut être très dangereux. C'est le problème principal de tout ce qu'on appelle espèces invasives, ces espèces qui sont chez nous mais qui ne devraient pas l'être et qui sont souvent légèrement plus grandes ou légèrement plus concurrentielles et qui prennent le pas sur nos espèces locales. Donc on parle du poisson-chat ou du poisson rouge au niveau des poissons, mais si on considère notamment la tortue, en Suisse nous avons une tortue indigène qui est la cistude d'Europe et qui est malheureusement supplantée par les tortues de Floride à tempe jaune ou à tempe rouge qui sont un peu plus grandes, un peu plus compétitives et qui prennent le pas sur notre cistude. Elles atterrissent dans l'environnement parce que toutes petites, elles sont minuscules, elles sont adorables. Mais quand les gens se rendent compte que ça grandit une tortue et que surtout ça vit près de 50 ans, ils en ont des fois marre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, au lieu de les ramener dans un centre, ils les jettent dans la nature. Lors de notre première émission dans ce Genève Côté Nature, la première émission de septembre l'année passée, nous avions interviewé dans un côté passion Charlotte Ducotter, qui est la fille du responsable du centre de protection et récupération des tortues de Chavornay, qui nous avait expliqué vraiment en long, large et en travers la problématique de ces espèces de tortues sauvages, exotiques, qui prennent le pas sur notre tortue indigène. Nous vous laissons réécouter le podcast si ce sujet vous intéresse. C'est sous le chant du rouge-gorge que nous allons faire maintenant une pause musicale. Aujourd'hui, nous allons écouter L'ours de Christophe Maé et Youssoundour qui parle du réchauffement climatique et de ses conséquences sur les animaux.
Laisse-moi seul, je suis pas d'humeur. Je suis bouillant comme l'équateur. Posé sur quelques mètres carrés, j'ai beau hurler, mais personne pour m'aider. Laisse-moi seul, je te dis, j'ai pas le cœur. La saison des amours se meurt. Je suis qu'un taulard à ciel ouvert. Regarde, on dirait un clochard des mers. Ça devient chaud, j'en perds le nord, j'en perds l'Arctique. J'entends des voix des fois venues.
A tout le monde c'est des mains. Africa de Glimbolo. Oui.
laisse-moi seul sous ma grande ours. Aujourd'hui, je donne pas cher de ma peau à la bourse. Je me traîne une drôle d'allure. Je fais de la peine à voir dans ma fourrure. C'est plus le grand froid chez moi, mais n'est plus d'hiver. Et elle s'enlève pas, moi, ma poudre. Un jour, les seules ours blancs seront les peluches de vos enfants. Je crève de chaud, j'en perds le nord, j'en perds l'Arctique. J'entends des voix, des fois venues d'Afrique.
À tout le monde, c'est des mains.
Et Youssoundour avec leur chanson L'Ours. Vous êtes de retour sur Genève Côté Nature, votre émission verte de la semaine. Je suis Virginia et je suis accompagnée évidemment de ma sœur Émilie. Nous sommes toutes deux les fondatrices de l'association Nariès qui travaille pour la protection de l'environnement. Aujourd'hui, nous vous présentons un côté vadrouille qui est une deuxième vadrouille au bord de la Sema à Schenbourg. Nous sommes partis cette fois-ci de l'école de Haller et nous suivons le cours de la SEMA en direction du Vieux-Bourg. Nous arrivons maintenant à un tronc énorme, encore dressé, mais qui est malheureusement un arbre mort. On voit qu'il est recouvert de mousse et il est juste après un nichoir à oiseaux. Et c'est sur ces deux aspects que nous allons commencer cette deuxième émission aujourd'hui. Alors, il faut savoir qu'en Suisse, pendant très longtemps, on a cherché à avoir des forêts propres, à enlever le bois mort, à nettoyer le sol et tout et tout. Et en fait, c'est pas du tout une bonne idée, parce que quand le bois meurt, la forêt en a besoin pour régénérer son humus, régénérer les nutriments dans le sol. Donc, c'est pas du tout une bonne idée d'enlever la matière végétale et la matière organique qui est morte. Donc, depuis quelques années, heureusement, on a compris que c'était pas une bonne chose à faire et on a commencé à prendre l'habitude de laisser les branches mortes et d'en faire des tas qui permettent déjà de laisser la matière organique dans la forêt. Et en plus, les tas de bois, les tas de branches et de manière générale, les zones comme ça en forêt sont très bénéfiques parce qu'elles offrent un refuge à plein d'animaux, que ce soit des petits animaux, des rongeurs ou des plus grands, des mustélidés ou de reptiles qui les utilisent comme site dortoir pour se dorer au soleil le matin et se réchauffer.
C'est aussi une zone très importante pour les insectes décomposeurs qui vont venir manger ce bois et le dégrader. Donc en fait, ces tas de bois que vous pouvez voir en forêt sont vraiment une opportunité incroyable pour favoriser la biodiversité. C'est également le cas pour les troncs et les arbres morts qu'on avait aussi l'habitude de couper ras et d'enlever. Et maintenant, quand un arbre meurt, on le coupe à une certaine hauteur et on le laisse en place parce qu'il va être occupé pour créer des cavités, pour créer des tunnels par différents animaux, que ce soit des oiseaux ou des insectes. Donc c'est une source de nourriture et des habitats divers et variés assez fantastiques. C'est pour ça que maintenant on a pris l'habitude de les laisser en place.
Juste avant ce grand arbre coupé, on peut voir sur un petit tronc qu'il y a un nichoir à oiseaux. Alors les nichoirs à oiseaux, on pourrait se demander pourquoi il y en a sur un cordon boisé comme celui sur lequel nous sommes en train de marcher, parce qu'on peut se dire que les oiseaux ont largement assez de quoi faire. Mais en fait, il faut savoir que créer un nid pour un oiseau est quelque chose qui demande énormément d'énergie. Et si on lui propose des nichoirs déjà tout faits, c'est tout ça d'énergie qu'il n'aura pas à dépenser. Et il pourra garder cette énergie pour aller chercher plus de nourriture, pour faire une nichée plus grande ou pour toute autre activité. Les nichoirs, ils ont un trou avec une taille particulière en fonction de l'espèce d'oiseau qu'on espère aider. C'est sûr que si on fait un grand trou, toutes les espèces pourront venir habiter dans le nichoir et il n'y aura pas de spécificité. Mais avec un petit trou, les nichoirs sont souvent appréciés des mésanges ou des sittelles. Alors si tout d'un coup un oiseau veut quand même venir dans un nichoir mais que le trou est trop petit pour lui, il n'est pas rare de voir le trou d'un nichoir agrandi grâce à leur bec. Donc ils tapent et ils agrandissent le trou pour pouvoir entrer dans le nichoir qu'ils convoitent. Dans le cadre de notre travail avec Nariès, nous avons entre autres fait des suivis de nichoirs à torcol fourmilier. Donc le torcol fourmilier est un oiseau qui est relativement rare sur Genève, en tout cas dans certaines zones. Et dans le cadre de notre check de nichoir, on devait aller faire un parcours pour vérifier si les nichoirs étaient occupés. Pour savoir si un torcol est dans un nichoir, on doit frapper à la porte avant d'entrer. Et si le nichoir est occupé par un torcol, il va nous répondre en feulant. C'est vraiment un bruit qui est assez caractéristique. Et quand on vérifiait les nichoirs, si on n'avait personne à l'intérieur, en tout cas si personne ne nous feulait contre, on l'ouvrait délicatement et on regardait le nid qui était dedans pour déterminer l'espèce qui s'était installée. Alors, en tout cas dans la zone qu'on prospectait dans les têtes de verbois, le torcol est très peu présent. Donc les nichoirs sont plutôt occupés par d'autres espèces qu'on peut identifier selon la structure du nid. Par exemple, si on ouvre la porte et qu'on voit un nichoir qui est empli de couches très très régulières de mousse, de brindilles, de feuilles mortes, de mousse, de brindilles, de feuilles mortes, c'est l'habitat d'une mésange charbonnière ou d'une mésange bleue. Et si c'est un gros tas un peu fouillis de branches et de feuilles mortes, c'est souvent une sittelle torchepeau. Nous continuons notre petite vadrouille en suivant le cours de la Sema. Et d'ailleurs, à l'instant, en arrière-plan, on vient d'entendre une corneille et un pic vert. Un pic vert qui crie quand il prend son envol. Pour vous repérer sur le chemin, on vient de passer le chemin des hutins qui venait sur notre gauche et qui descendait au niveau du stand de tir. Et donc là, on continue le long de la Sema. Sur votre droite, au niveau d'une petite cabane de jardin sur la gauche, on peut voir un conifère. Alors la différence entre les conifères et les feuillus, c'est que les feuillus, comme le noisetier, comme le charme, comme l'érable, perdent leurs feuilles en hiver. Et les conifères ont des aiguilles, qui sont en fait des feuilles aussi, mais des feuilles modifiées, ont des aiguilles qu'ils gardent pendant toute la mauvaise saison. Donc là, au niveau de la cabane, on a un conifère qui est en fait très doux. Souvent, on n'a pas envie de toucher un conifère. Je pense que vous avez déjà tous fait l'expérience de toucher un sapin Noël. C'est pas forcément très agréable. Mais en fait, n'hésitez pas à toucher ce conifère-là, parce qu'en fait, c'est un if. If, ça fait un malheur aux mots croisés. L'if est un arbre qui, du coup, ne perd pas ses feuilles en hiver. Et il a passablement d'histoires dans son folklore qui le lie aux druides et à la magie blanche, parce qu'apparemment aucun sortilège ne marchait si le druide en question n'utilisait pas de l'if pour faire son incantation. C'est une plante qui est extrêmement toxique pour les chevaux et tout ce qui est équidé. Normalement, ils ne vont pas le manger directement de leur plein gré parce que C'est comme s'ils savaient que c'était mauvais pour eux. Mais malheureusement, des fois, ça arrive de manger un petit bout d'if parmi d'autres plantes et ça peut être extrêmement dangereux. Il faut faire un lavage d'estomac, mais ça peut être dramatique.
Nous arrivons maintenant sur un pont qui traverse la Sema. Et vous pouvez voir à l'entrée de ce pont sur votre droite de l'if, un peu plus loin de l'érable. À gauche, nous avons aussi un érable et aussi un if d'ailleurs. Et à droite, qui passe par-dessus le cours d'eau, nous avons un arbre avec des feuilles composées, contrairement à toutes les feuilles dont nous avons parlé jusqu'à maintenant. C'est le marronnier. Le marronnier n'a pas une seule feuille, il a une grande feuille qui est composée de plusieurs folioles qui forment comme une main, elles partent toutes du même point.
Le marronnier est une plante dont le nom provient de mar, qui veut dire caillou, et ça fait évidemment référence à son fruit, qui ressemble à un caillou. Alors, petite note que la plupart des gens savent maintenant, on ne mange pas les fruits du marronnier, même si on mange des marrons chauds, on mange des châtaignes. Le marronnier donne des fleurs qui sont soit roses, soit blanches. Et une petite particularité, c'est que sur les pétales, il y a des petits points jaunes qui vont guider les pollinisateurs vers le centre de la fleur. Et il semblerait qu'une fois que les fleurs soient pollinisées, les petits points jaunes deviennent rouges pour indiquer aux futurs pollinisateurs que ça ne sert à rien de venir dans cette fleur-là.
Et de l'autre côté, on peut voir en ce moment même deux écureuils qui se courent après. Alors, est-ce que ce sont deux mâles qui sont en concurrence pour un territoire ou est-ce que c'est un mâle et une femelle ?
Non, il me semble que ce sont des juvéniles, ils ont l'air tout petits.
Ah, ce sont des petits qui se courent après.
Pour s'entraîner, ils sont en train de jongler et de faire du trampoline sur les arbres. Donc, à savoir, l'écureuil est évidemment bien présent dans les forêts de feuillus. Il peut se nourrir de glands, de noisettes et d'autres baies comme ça. L'écureuil, on parle de lui en tant que jardinier des forêts parce qu'ils sont choux, ils sont en train de sauter de branche en branche. Donc l'écureuil, on l'appelle le jardinier des forêts parce qu'à l'approche de la mauvaise saison, il va faire des réserves de graines justement et il va les cacher dans son environnement, au sol ou à différentes hauteurs pour être sûr de pouvoir les atteindre même s'il y a une bonne couche de neige. Et en fait, il n'a pas une mémoire infaillible, donc au fur et à mesure de la saison, il va aller récupérer ses cachettes, mais il en oublie. Et en oubliant, eh bien en fait, il n'a fait que planter des arbres, donc il permet à la forêt de se régénérer et à de nouveaux arbres de pousser.
On va laisser ces deux jeunes écureuils batifoler dans les arbres et on va continuer notre chemin. Nous arrivons gentiment à la fin de cette promenade, nous espérons qu'elle vous a plu. Nous finissons donc juste avant de passer sous le Seva au niveau de Chêne-Bougerille.
Concernant les prochains rendez-vous Nariès, nous vous donnons rendez-vous le 17 juillet pour la sortie nature du mois de juillet, durant laquelle nous irons nous promener de nuit dans les bois de Dardanie à la rencontre des amphibiens. Vous pouvez vous inscrire d'ores et déjà sur notre site internet, que je vous rappelle, c'est www.naries.ch et dans la rubrique sortie nature, vous pourrez vous inscrire.
Merci encore de nous avoir suivis ce soir. N'oubliez pas que cette émission est rediffusée jeudi et samedi sur Radio Cité Genève 92.2 FM. Et en attendant, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Genève Côté Nature. Et cette fois, ce sera un côté astuce.
Bonne semaine à tous.
Au revoir.
Genève. Côté. Nature.